les jardinières.
C'est samedi matin, honneur aux mains vertes, les jardinières vous accompagnent durant cette heure. Bonjour Noélie.
Bonjour Léo.
On accueille notre invité Jean-Pierre Ribaud, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes paysagiste à Queuves chez Ribaud Paysages, merci d'être avec nous.
Bienvenue dans les jardinières, on parle jardinage jusqu'à 8h sur RGB, RTN et RFJ.
7h, 8h. Les jardinières.
Jean-Pierre, on est en plein cœur de l'automne, les températures baissent doucement mais sûrement, les journées raccourcissent, il y a encore pas mal de choses à faire avant que l'hiver ne s'installe. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre à profit ces prochains jours au jardin ?
Oh bien, pas simplement de travail qui arrive. Dans ce qui est potager, évidemment, il reste les carreaux à finir de nettoyer, enlever les grosses mauvaises herbes qui s'y traînent et puis composter tout ce matériel. Potager, bien sûr, on peut couvrir avec les mulches, les composts, le mieux, c'est encore du fumier si vous avez le potentiel. Et puis reposer cette terre pour qu'au printemps, on arrive à la retravailler. On peut même faire un larronnage, un bêchage. Comme ça, vous avez une structure qui va s'améliorer durant l'hiver. Et puis dans les aménagements extérieurs, bien sûr qu'on a un début de chute de feuilles, donc c'est encore un peu précoce pour les ramasser. On a les tailles des plantes vivaces, des massifs qui sont là, qui sont en fin de floraison, et puis qu'on doit couper, nettoyer de nouveau quelque chose qu'on va pouvoir composter. Un peu de taille, bien sûr, tout ce qui est de taille, on peut les commencer. Et puis dans les pelouses, il y a bien des tontes, et puis les derniers services avant les grands froids de l'hiver.
Merci Jean-Pierre, vous restez avec nous jusqu'à 8h. Dans la deuxième partie de l'émission, vous répondrez aux questions jardinage de nos auditeurs et auditrices. Vous pouvez d'ailleurs déjà nous les envoyer, soit par téléphone au 0 900 70 20 20. Vous pouvez également nous envoyer un SMS, il faut taper le mot jardin au début du message, laisser un espace, puis votre question et votre nom au 939. Et puis la troisième manière de s'y prendre pour nous joindre, c'est par formulaire sur notre site où vous pouvez aussi joindre une photo à votre message.
On se retrouve juste après une pause musicale pour parler d'un moment clé au jardin en cette saison, la plantation de racines nues. Pourquoi c'est maintenant qu'il faut s'y mettre? Quelles sont les bonnes pratiques? Comment assurer une belle reprise au printemps? Et au fait, c'est quoi une racine nue? Tout ça, c'est dans quelques instants dans les jardinières. Restez avec nous.
7h, 8h, les jardinières.
On parle jardinage jusqu'à 8h et ce matin, cap sur un sujet 100% de saison, la plantation de racines nues. Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste à Queuves chez Ribaud Paysages. Pour démarrer simplement, c'est quoi une plante à racines nues et pourquoi en parler maintenant à l'automne ?
Eh bien, une plante à racines nues, c'est des végétaux qu'on arrive à arracher maintenant, en fin de période de végétation. Elles sont extraites dans le terrain par des machines spéciales qui, justement, prélèvent que le végétal et les racines sans terre. C'est des végétaux qui se comportent très très bien de cette manière-là. On n'arriverait pas avec n'importe quelle plante à pratiquer de la sorte. Par exemple, simplement tout ce qui est de conifères ne peut pas s'arracher racine nue. C'est une plante qui ne supporte pas du tout cette manière de faire. Mais par contre, tout ce qui est d'arbres fruitiers, rosiers, arbustes d'ornement, arbustes indigènes, c'est des végétaux qui supportent très très bien cette manière de travailler. C'est intéressant au niveau des pépinières parce que bien sûr ils conservent dans leurs pépinières des tonnes de terre qui ne sont pas exportées. La manutention elle est beaucoup plus facile parce que c'est des végétaux qui sont légers, on arrive à les mettre en fagot. Je prends l'exemple d'une haie vive, par exemple, des végétaux indigènes. Si vous commandez une fois un lot, eh bien, ce sera des végétaux qui seront groupés par lot de 10, de 15, de 25, c'est égal. Donc c'est très très facile à manipuler. Et puis d'autant plus que la reprise elle est garantie quasi, parce que si vous prenez les bonnes manières dont on verra par la suite dans l'émission, eh bien, la reprise elle est garantie à 85-90% sans souci. Juste un petit peu des soins particuliers qu'on dira tout à l'heure.
Quelle famille de végétaux se prête le mieux aux racines nues pour démarrer en ce moment ?
Eh bien justement, tout ce qui est des arbres fruitiers, tout ce qui est des rosiers, des arbustes indigènes, c'est tous des végétaux qu'on arrive à trouver déjà maintenant dans le commerce. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pépinières, elles les ont déjà arrachées il y a 10-15 jours. Pour arriver à les arracher, elles, d'ailleurs, elles pratiquent un effeuillage généralement manuel pour justement couper cette descente de sève. Parce que si vous laissez la feuille sur le végétal continue de transpirer. Et puis du moment qu'il est arraché, vous n'avez plus l'alimentation par les racines. Et puis, une fois arrachées, eh bien, les pépinières les stockent. Là, vous avez tout le stock qui est déjà prêt pour l'achat. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est conifère, il y a d'autres végétaux qu'on n'arrivera pas à obtenir dans ce sens-là. La reprise n'est pas garantie du tout.
On a souvent le réflexe de penser « j'attends le printemps ». Mais vous, vous dites l'inverse. Plus tôt on plante, mieux c'est. Alors, pourquoi il ne faut pas attendre ?
Bien parce que maintenant, vous avez tout le stock qui est disponible, vous avez toutes les essences qui sont disponibles, et puis vous avez la qualité qui est disponible. Si vous les plantez au printemps, les végétaux que vous achèterez au printemps, soit ils auront passé 2 ou 3 mois dans une chambre froide, alors bien sûr avec une air conditionnée très humidifiée, mais ils auront fait de la chambre froide, ou bien une mise en jauge. Ce qu'il faut comprendre, chaque manipulation d'un végétal est sujet à blesser un peu des racines, des troncs et des choses comme ça. Donc même dans une mise en jauge, c'est un peu plus délicat. Et puis on a surtout le problème qu'au printemps, des essences, des variétés, vous n'arriverez plus à les trouver parce qu'elles auront été coulées durant l'automne. Alors si vous les prenez maintenant, si vous les achetez maintenant, vous êtes garant d'avoir l'essence que vous souhaitez. Et puis aussi au niveau de la reprise, et bien sûr un végétal qui est déjà mis en place maintenant cette période, durant l'hiver avec l'humidité, le gel, le dégel, la terre se sera mise en place aisément au niveau des racines. Les racines seront vraiment liées au sol et puis la reprise peut être garantie de 10-15 jours plus vite au printemps qu'un sujet que vous aurez planté au printemps. Et puis d'autant plus qu'une plantation printanière va nécessiter beaucoup plus d'arrosage qu'une plantation à cette période-ci.
Les jardinières.
On est ensemble pour parler jardinage jusqu'à 8h ce matin. On se penche sur un sujet de saison, la plantation de racines nues. Jean-Pierre Ribaud, vous êtes toujours paysagiste à Queuve chez Ribaud Paysage.
Et on a pour vous encore une question. Justement, avant de creuser, il y a la logistique. Comment transporter et stocker correctement ces plants pour éviter le dessèchement des racines ?
Oui, alors quand vous achetez des végétaux en racines nues, le transport, il faut le mettre dans le coffre, il faut les avoir dans un sac plastique, il faut en tout cas pas les mettre sur un porte-bagages au courant et puis rouler avec des racines à l'air. Ça dessèche très vite les radicelles et puis vous avez une perte conséquence de ces éléments qui sont très importants. Et puis une fois arrivé chez vous, admettons, si vous avez acheté un lot de, je dis n'importe, une plante de haie, par exemple du hêtre ou du charme, c'est un lot d'une centaine de pièces et puis vous les plantez ces végétaux autour de votre propriété. Alors bien sûr qu'il faut le faire rapidement, hein, dans la journée ou voire le lendemain, mais durant la nuit c'est déjà quelque chose qu'il faudra bâcher, humidifier au niveau des racines pour éviter ce dessèchement. Et puis si par malheur vous n'arriviez pas à tout planter en une fois, et bien là il faudra quand même faire une tranchée dans le terrain, dans une bonne terre. Et puis vous mettrez ces végétaux racines en bas, bien sûr, dans le terrain, et puis compacter avec les pieds pour que l'humidité remonte à ces racines et puis les tiennent humides. Et puis là, vous aurez tout loisir de les reprendre quand vous voudrez pour les replanter en définitif. Mais évidemment, moins de manutention fait moins de dégâts, et puis plus vite c'est planté, plus la reprise est garantie.
Au moment de passer à l'action, Jean-Pierre, vous pourriez nous parler des erreurs qui plombent la reprise ?
Eh bien déjà, justement, ces mesures de protection au niveau des transports, ne pas laisser ses racines sèches, s'assécher au soleil, toujours les protéger, les humidifier, bien sûr. Et puis, une fois que vous êtes prêt pour la plantation, bien sûr, eh bien, trouver un substrat, une bonne terre, la mise en place, on en parlera tout à l'heure. L'arrosage, il est quand même indispensable, malgré cette période de végétation qui est automnale. Cet arrosage, il est justement pour que les particules fines se lient aux racines, tiennent l'humidité aux racines pour éviter ce dessèchement de radicelles. Et puis, lors de cette plantation, pareil, on fera un habillage, on appelle, mais c'est une taille des racines. Toutes les racines qui seront cassées, il est important de les sectionner, enlever 1-2 cm pour avoir une plaie fraîche. La plaie fraîche va provoquer un redémarrage de radicelles très rapidement au printemps, ce qui va favoriser une reprise optimum de vos végétaux. Une racine cassée, eh bien, elle va plutôt choper de la maladie et puis en tout cas pas redémarrer. Et puis le végétal s'en mettra d'autant plus difficilement à reprendre. Il va reprendre, mais dans une lenteur qui n'est pas acceptable.
Les jardinières.
Vous écoutez RJBR TNRFJ, les jardinières sont au menu jusqu'à 8h ce matin. On parle plantation à racines nues avec Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. On a posé tout à l'heure les fondations, place au concret, comment réhydrater les racines à la réception avant la mise en terre.
On parle pralinage à ce niveau-là. C'est une manière de mettre un liant, un substrat au niveau des racines avant la plantation. L'avantage, eh bien, c'est que ça va garder cette humidité constante au niveau de ses racines, ses radicelles. Et puis, ça garantit vraiment une super reprise. Et puis, la manière d'agir, eh bien, soit vous prendrez de la terre végétale que vous laisserez dans un bidon avec de l'eau, en tout cas 24 heures ou 48 heures avant cette plantation, parce que pour arriver à avoir une glaise vraiment humide, il est difficile de l'obtenir si vous ne faites pas cette manière de faire. Nous, de temps en temps, ce qu'on arrive quand on a des grands lots de plantation, on achète un substrat, c'est une espèce de marne très collante, gluante, qui, mis avec de l'eau, eh bien justement, est vraiment comme une pâte qui adhère à cette racine. Donc, avant la plantation, vous prendrez vos végétaux que vous tremperez dans ce substrat. Faut pas qu'il y ait trop d'eau non plus, parce que quand vous ressortirez vos racines qui sont nues, hein, donc on a dit qu'ils n'ont pas du tout de terre, quand vous les sortirez de ce substrat, si vous avez trop d'eau sur le haut du baquet, eh bien ça va laver les racines, donc on va enlever le surplus de l'eau, vous aurez cette glaise qui sera vraiment quelque chose à tartiner, vous trempez vos racines vraiment à l'intérieur et puis en les ressortant, vous faites votre plantation de cette manière et puis ça c'est la manière de praliner et de garantir une super reprise de végétaux.
Jean-Pierre, pour la fosse de plantation, comment vous calibrez les dimensions et préparez la terre afin que les racines puissent s'étaler sans contrainte dès le premier jour ?
Eh bien, quand on fait un trou de plantation, on fait, je dirais, un tiers de plus la largeur par rapport à la masse racinaire que vous avez. Et puis au niveau de la profondeur, on n'aime pas creuser trop profond. Ce qu'on fait, on gratte un peu le fond. Si vous êtes dans un substrat qui est de bonne qualité, on n'aura pas de problème de perméabilité. Et puis, à ce niveau-là, largeur et hauteur, vous avez donné. Par contre, si vous arrivez sur une surface marneuse, en sous-sol, eh bien, à ce niveau-là, il faudra quand même enlever encore une bonne épaisseur de bêche et puis remettre de la bonne végétale qu'il ne faudra pas oublier de super compacter avant de mettre le plant dedans. Si vous ne le faites pas, ce qui va arriver, donc vous faites votre trou, vous rajoutez votre terre végétale après avoir enlevé cette poche de marne, vous mettez votre végétale et puis vous remettez de la terre tout autour. En compactant, ce qui va arriver, le végétal il sera trop profond, et puis en étant trop profond, c'est pas garantir une super reprise. Et puis d'autant plus si vous avez un plant qui est greffé, il y a vraiment cet impératif de garder le collet de greffe, la partie supérieure. Et puis on a aussi des fois tendance, quand on le fait, puis que c'est trop profond, et puis que ça s'affaisse trop, ça fait une forme de cuvette, et puis si vous avez des fortes précipitations, l'eau elle a tendance à s'écouler un peu au niveau du collet de cette plante, et puis le trop d'eau n'est pas positif non plus pour la reprise. On n'est pas avec des végétaux comme du saule ou de l'aulne qui supportent vraiment ces conditions générales, comme le rosier, le fruitier, les plantes de haie. Il leur faut de l'humidité, mais ce n'est pas des plantes qui supportent une humidité constante.
Vous en avez déjà un peu parlé, mais dans le cadre d'un sol lourd ou très argileux, quel geste simple permet d'éviter cette stagnation d'eau et ce fameux effet pot qui étouffe les jeunes racines ?
Alors, c'est pas toujours simple. En tant que professionnel, on vit des fois des situations un peu compliquées. Par exemple, j'ai souvenir, on avait fait des grosses poches de plantation pour des arbres d'avenue. Et puis, 3 jours plus tard, on avait 30 cm d'eau dans le fond de cette poche, de cette fosse qu'on avait réalisée. Et puis, à ce niveau-là, nous, on avait pris des mesures particulières. On avait foré avec une tarière dans ce substrat. C'était lors d'un chantier où on avait des couches de marne qui avaient été remises en place. Elles avaient été tellement compactées qu'elles étaient totalement hermétique, et puis l'eau n'arrivait plus à s'infiltrer. Donc on a percé ces poches de marne avec des tarières, on est descendu 1 mètre, 1,20 m en dessous, justement pour permettre cet écoulement. Le privé qui va faire des plantations chez lui, il peut aussi rencontrer ce genre de phénomène. Par exemple, lors d'une remise en place de substrat sur une construction, eh bien, par exemple, je l'ai aussi vécu, ils avaient mis en place les marnes et puis les terres végétales avec une pente sur l'extérieur et puis justement sur la limite, une haie de tuyas avait été implantée. On s'est rendu compte au bout d'une année qu'elle dépérissait parce que toute l'eau qui s'écoulait sur cette manne qui avait été trop compactée arrivait dans la poche de plantation qu'on avait réalisée. Et puis pour sauver cette plantation de tuyas, ce qu'on a fait, on avait fait un carottage, un larronnage, un bêchage à l'arrière de la haie, en contrebas, beaucoup plus bas que le niveau des racines de ces tuyas, pour justement permettre cette infiltration d'eau et puis ne pas laisser cette eau dans ces poches de plantation. Donc, quand on fait une plantation, ce qu'il faut, c'est se garantir d'avoir un terrain qui soit meuble, qui soit aéré. Et puis, si vous tombez sur justement une couche de marne en sous-sol, là, il faut vraiment qu'il se cave un peu plus large, un peu plus profond, vraiment. Ramener vraiment un bon substrat, une terre végétale qui va permettre cette reprise et puis se garantir que cette eau puisse s'écouler parce que sinon, eh bien, c'est voué à l'échec.
7h, 8h. Les jardinières.
Ce matin, on parle plantation à racines nues avec Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Jean-Pierre, on va parler maintenant des fruitiers greffés. Où est-ce qu'il faut placer exactement le point de greffe par rapport au niveau du sol pour garantir une reprise saine et durable ?
Oui, les arbres fruitiers sont généralement greffés à la base, ça veut dire à 15-20 cm par rapport au démarrage des racines. Quand vous réceptionnez, quand vous achetez un arbre fruitier qui est racine nue, on le voit clairement, ce bourrelet de greffe. Et puis lors de la plantation, il faut absolument que ce bourrelet se trouve dans l'espace aérien. Il ne doit pas être au contact de la terre. Parce que ce qu'il faut comprendre, le porte-greffe, c'est un plant sauvage en général. Hein, le pommier sauvage ou le poirier sauvage ou le cerisier sauvage, c'est égal. C'est des plants qui sont adaptés à notre situation, qui ont un système racinaire qui est très robuste. Et puis, ou alors si vous prenez des palmettes ou des fuseaux dans les arbres, dans les pépins, et bien là, vous aurez des porte-greffes qui auront été sélectionnés justement pour limiter les pousses et puis pour favoriser une grosse mise à fruit. Donc, le porte-greffe, il a son importance parce que c'est celui-là qui va déterminer la structure de l'arbre futur. Et puis cette greffe, eh bien, elle a été établie par la pépinière. Si vous plantez trop bas votre végétal, ce qui va arriver, le collet de greffe, étant donné que c'est un espèce de stop qu'il faut comprendre, où la sève, elle doit passer et elle est chicanée, eh bien, la greffe en elle-même, elle pourrait raciner, elle pourrait taler, elle pourrait se remettre à développer des racines à la hauteur de ce collet de greffe. Et puis, la greffe en elle-même, la variété qui aurait été sélectionnée, n'est pas du tout capable de se supporter par elle-même. Elle n'aura pas du tout un bon système racinaire, et puis l'arbre, il est voué à l'échec dans une courte période de son existence. Donc, il faut vraiment que ces collets de greffe soient aériens. Et puis, par contre, si vous avez des rosiers greffés, ce qui est souvent le cas, bien sûr, eh bien là, on préfère les mettre à hauteur de sol. Ce qu'il faut comprendre, le rosier, il se supporte par lui-même parce que ce n'est pas un arbre qui est très grand. On arrive aussi à produire le rosier par bouture. Donc même si le collet de greffe il se met à raciner, ce n'est pas dramatique. L'avantage de le mettre à hauteur de sol, c'est une super protection hivernante. Alors je sais bien qu'on n'a plus des hivers du passé, mais ça peut quand même revenir. Et puis si vous mettiez votre collet de greffe en altitude, comme l'arbre fruitier, eh bien, vous aurez des gros risques de casse au niveau du froid. Encore
Jean-Pierre,
un petit détail, oui.
Oui, bien sûr, allez-y seulement.
Pardon, un petit détail. Ce qui arrive aussi des fois, comme quand vous achetez des rosiers, il y a des fois des redémarrages sur les racines du porte-greffe. Il faut absolument les arracher et pas les couper. Si vous les coupez, vous allez les stimuler à la pousse, vous allez les renforcer. Et puis à un moment donné, dans votre massif, vous aurez ces rejets de 80 à 1 mètre de hauteur par année qui vont arriver. Donc si ça se produit, il faut vraiment les arracher, pas les couper. Et puis sur les arbres fruitiers, ça peut aussi arriver quand on les achète qu'il y ait des yeux latents. Les voies, des petits redémarrages au niveau des racines, dans le collet des racines. Il faut aussi vraiment bien les nettoyer, presque les arracher. L'avantage de les arracher, vous allez blesser un peu l'arbre, bien sûr, mais vous allez arracher les yeux latents qui se trouvent sur le pourtour de ces rejets. Et puis, ça va limiter justement cette prolifération de rejets qui est désagréable lors d'une culture de fruitiers.
Jean-Pierre, même en automne, on parle d'un arrosage de plantation généreux. Quelle quantité il faut viser et quel est l'objectif de cet arrosage initial au-delà d'apporter de l'eau ?
Alors bien sûr que l'arrosage il est aussi important à cette période, on l'a dit, c'est qu'il faut remettre l'humidité dans la terre pour que cette terre vienne lier les racines. Il ne faut aussi pas hésiter de bien compacter le sol avant l'arrosage avec le pied. On réalise une cuvette supérieure pour justement conserver cette eau. Et puis un affruitier, je pense, c'est de l'ordre de 10 à 15 litres. Une fois suffit, mais vraiment bien arrosé. Et puis les rosiers, de l'ordre de 6-8 litres, je pense vraiment. Tout ce qui est de racines nues, malgré tout, les plantes de haies, les arbustes indigènes, ça reste quelque chose, malgré le pralinage que vous aurez réalisé au préalable, un arrosage, ça garantit justement d'enlever cette air, ces mottes sèches qui pourraient se trouver au niveau des racines, et puis remettre tout de suite en contact les racines au frais, au contact de la terre, pour que les radicelles redémarrent déjà très vite.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est jusqu'à 8h ce matin. On s'est intéressé à la plantation des racines nues avec Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. On a vu ensemble quand planter, comment bien préparer le terrain et les gestes à éviter pour assurer une belle reprise au printemps. Vous retrouverez tous ces conseils en podcast dans le courant de la matinée sur notre site internet. Et maintenant, pour bien continuer cette émission, on a besoin de vous. Envoyez-nous vos questions jardinage.
Et que ce soit en lien avec les racines nues ou n'importe quel autre sujet, appelez-nous au 0900 70 20 20 pour parler directement à Jean-Pierre. Vous pouvez également nous envoyer une photo, ça se passe via le formulaire disponible sur notre site, ou tout simplement un SMS. Il faut taper le mot « jardin » au début du message, laisser un espace, puis votre question et votre nom, et vous nous envoyez le tout au 939.
Une première question, excusez-moi, j'étais en train de la lire encore, une première question qui nous vient de Muriel de Montenol. Bonjour, je viens de déterrer mes cornes de glaïeul, ils ont tous donné de belles fleurs. Que dois-je faire de spécial maintenant, mis à part les mettre à la cave pour l'hiver? Certains ont de petites bulbilles.
Oui, bonjour Muriel. Effectivement, le bulbe de glaïeul développe ses petits bulbes à la base qu'on n'arrivera quand même pas à continuer de multiplier et puis de tirer en avant. Donc, pour une mise en cave, il faut effectivement les nettoyer, enlever un peu la terre, couper un peu les racines du bulbe. Et puis là, vous pourrez les stocker dans votre cave. Attention, il ne faut pas qu'elle soit trop sèche non plus, votre cave. Il faut qu'il y ait quand même un peu d'humidité parce que sinon, au printemps, vos bulbes ne vont pas redémarrer. Et puis la partie supérieure, on peut laisser une tige de 10 cm, quelque chose comme ça, pour un hibernage. On nettoie vraiment le bulbe des pots de bulbes, des feuilles qui peuvent s'y trouver de trop. Et puis là, vous êtes garant qu'au printemps, ça va redémarrer.
Merci Jean-Pierre. On a une question qui nous parvient par formulaire de Damien de Courgenay. Il nous écrit ceci. J'aimerais planter des fleurs mellifères dans mon potager. Comment m'y prendre ?
Oui, alors cher Damien, au niveau des plantes mellifères, les fleurs mellifères, pardon, on trouve des mélanges conçus pour cet intérêt-là. Bon, il faut savoir quand même que toute fleur est mellifère. Il y en a d'autres qui sont un peu plus productives que certaines. Le mieux, c'est de trouver de ces sachets qu'on trouve dans les supermarchés, dans les grands commerces. Et puis, c'est des semis qui se font généralement au printemps, je dirais fin mars, début avril, après avoir fait une préparation correcte du terrain. Vous faites un semis et puis vous compacterez un peu le sol avec une taloche, une pelle plate. Ce n'est pas des fleurs qui se mettent vraiment dans le terrain, c'est des petites semences qu'il ne faut pas enterrer trop profondément, sinon ça ne va pas démarrer. Et puis là, c'est garant que ça sera épanoui et puis que vous aurez ces fleurs qui seront mellifères. Mais en tous les cas, de toute façon, toute fleur produit vraiment du nectar. Voilà.
Merci Jean-Pierre, encore une question. J'ai un petit citronnier en pot sur mon balcon en moutier. Pour l'instant, il n'a pas gelé, mais est-ce qu'il vaut mieux le rentrer déjà maintenant ou attendre les premières vraies nuits froides ? Cette question nous vient de François.
Oui, alors ce qui est des citronniers, des agaves, en fait, je dirais que c'est beaucoup trop tôt pour les rentrer. Ce qu'on va faire, je dirais début décembre, il faudrait les mettre à l'abri des grands courants parce qu'ils n'aiment pas les fortes bises de 0 degré. C'est quelque chose qui est un peu négatif pour eux. Donc si vous arrivez à placer vos pots de tout ce qui est de plantes d'agave dans un endroit abrité des courants, malgré tout à la pluie, c'est très important parce que ça reste des plantes qui demandent de l'humidité tout l'hiver. Vous aurez un citronnier qui sera épanoui, en tout cas jusqu'à Noël. Et puis, je dirais que le mois de janvier, ben, il faut être un peu plus attentif. Là, ça vaut la peine de le rentrer dans un jardin d'hiver. éventuellement février selon les situations. Ça vaut la peine si vous avez des périodes clémentes en janvier et février de les ressortir, même au soleil, c'est pas un souci, ça va conserver cette habitude d'être placé au niveau soleil. Et puis lors des beaux jours du printemps, quand vous le ressortirez, vous n'avez aucun risque de courir ces brûlures de feuillage que l'on peut vivre des fois si vous avez une plante qui a été hibernée trop longtemps dans un jardin d'hiver à l'ombre et puis qu'au printemps vous la ressortez d'une fois. Eh bien, un coup de soleil pourrait causer des dégâts sur le feuillage. C'est pas pour autant que l'arbre va périr, il va redémarrer, il va redévelopper des nouvelles feuilles, mais dans l'intérêt de tout le monde et puis de la qualité de la plante, c'est des mesures à prendre. Mais en tout cas, pas les rentrer pour le moment, c'est sûr.
Les jardinières.
Ce matin, dans les jardinières, on s'est penché sur la plantation des racines nues, quand se lancer, comment bien préparer le terrain et quels gestes permettent d'assurer une belle reprise au printemps. Tous les conseils de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, seront disponibles dans la matinée en podcast sur notre site internet. Jean-Pierre, très rapidement avant de nous quitter, si nos auditrices et auditeurs ont envie de sortir la bêche ce week-end, on rappelle quelles sont les tâches prioritaires au jardin en ce milieu d'octobre ?
Ensuite, bien sûr, le nettoyage des carreaux, enlever tout ce qui est des déchets, des vieux légumes, des mauvaises herbes, les stocker sur le compost. On peut mettre des mulchis, on peut faire le bêchage. Bien sûr, aujourd'hui, peut-être profiter des dernières tontes parce qu'après, on a une super semaine qui arrive et puis on n'arrivera plus à pratiquer cela. Et puis un peu de taille, rabattage des plantes, bottes de rosier, les vivaces. Il y a du job, pas de souci.
Merci Jean-Pierre. On rappelle encore que vous êtes paysagiste à Queuve chez Ribaud Paysage. Merci d'avoir été avec nous.
Je vous remercie et bon week-end à tout le monde.
Merci Jean-Pierre. La semaine prochaine, on recevra Timothée Grisel, la paysagiste chez Timothée Grisel Paysage. À la semaine prochaine Noélie.
À samedi prochain Léo, bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.